Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je reçois Michel Crépu, rédacteur en chef de la revue des Demandes. Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes venu nous présenter le numéro de la livraison du mois de mars de la revue des Demandes consacrée à l'Inde et à la Chine. Mais avant d'aborder ce sujet démographique important, je souhaite m'arrêter à votre éditorial consacré à un personnage qui va nous quitter au mois de mai prochain. En tous les cas, à l'heure où nous enregistrons cette émission, on pense qu'il va nous quitter. Il s'agit bien évidemment de Jacques Chirac. Vous dites, Michel Crépu, qu'il y a une énigme, Jacques Chirac.
Oui, il y a une énigme dans la mesure où il n'y a pas d'énigme. C'est-à-dire que le personnage de Jacques Chirac, contrairement à ce qu'incarnait son prédécesseur François Mitterrand, qui avait tous les traits du Florentin tel qu'on ne sait plus à le dépeindre, Chirac, d'une certaine manière, affiche tout sans mystère. Et ceci m'intrigue énormément parce que je n'en crois rien et je suis frappé qu'à la veille de son départ, après presque 40 ans de vie politique, on en sache toujours aussi peu finalement sur le personnage, sur sa vie, sinon intime, car il n'y a aucune nécessité d'entrer dans l'intimité de quelqu'un, mais simplement de percevoir un peu la personnalité cachée, enfin la profondeur de ce personnage, car il y en a une forcément. Je dois dire que je ne suis pas absolument convaincu, en dépit de l'immense estime que j'ai pour mes collègues journalistes comme François-Olivier Gisbert ou Pierre Péan, qui ont tenté l'escalade de ce personnage sur le versant noir avec Gisbert et sur le versant plutôt positif avec Péan. Eh bien, je crois que ni dans un cas ni dans l'autre, nous avons accès à la singularité du mystérieuse du personnage Chirac. Donc, tout reste à faire. C'est un peu un paradoxal puisqu'il va s'en aller. Donc,
Alors justement, c'est assez amusant que vous citiez Péan et que vous compariez Mitterrand et Chirac, car il y a un point commun entre les deux, c'est que Péan s'est intéressé à Mitterrand sur la fin de sa vie, avec le fameux bouquin consacré donc à la jeunesse de François Mitterrand et de ses liens, ce qui n'était pas un scoop, de ses liens avec le régime de Vichy. Cette fois, donc, Pierre Péan s'intéresse au personnage Chirac. On a du mal à trouver cette consistance, cette explication.
Oui, alors ça, je pense que c'est aussi lié, bien entendu, aux individualités en question. Le personnage de Mitterrand, d'abord, était d'une génération différente, et donc son lien compliqué avec la guerre, naturellement, ne pouvait que renforcer la curiosité d'un journaliste curieux comme l'est Péan. Le cas de Chirac est différent. Il est déjà plus près de... Quelqu'un disait récemment... Nous allons vivre la première vraie élection d'après-guerre. C'est pas faux. Et au fond, Chirac aura été une sorte d'intermédiaire, finalement, entre la génération de ceux qui avaient joué vraiment un rôle pendant la guerre et ceux qui vont maintenant prendre les commandes. Il a été dans cet entre-deux. Je ne sais pas comment il apparaîtra avec le temps. Ce sera sûrement intéressant, d'ailleurs, d'évaluer ça, tout comme Giscard d'ailleurs, mais c'est un autre dossier, un autre sujet. Mais ce sera intéressant, oui, de voir comment Chirac finalement aura incarné cette France qui va du début des années 60, de ses débuts en politique. Il a accompagné ça. Et c'est très difficile aujourd'hui de se faire une idée exacte de la trace que ça va laisser.
Alors, je dois vous faire une confidence, Michel. J'aurais aimé un portrait de Jacques Chirac, un portrait de fin de règne de Marin de Viry, qui cette fois s'intéresse au cas Bayrou. On se souvient que Marin de Viry s'était intéressé au cas Ségolène Royal. Cette fois, il s'intéresse au cas Bayrou.
Je vous rassure tout de suite, mon cher Christophe. Le Marin de Viry, à l'heure où nous parlons, est en train de plancher sur un texte sur Chirac. Et le cas de François Bayrou, oui, est devenu un cas intéressant, curieux, dont on ne sait pas très bien, là aussi, à l'heure où nous parlons, ce qu'il va donner. Mais l'intérêt qu'on peut avoir pour lui est certainement lié au fait qu'il a, chose qui était considérée comme pratiquement impossible, réussi à faire bouger ce fameux centre dont on dit qu'il est un peu le triangle des Bermudes ou une sorte de lieu introuvable qui permet, qui aurait pour principal avantage d'échapper à la réalité ou à la réalité prosaïque et politicienne avec laquelle il faut malheureusement compter tout de même. Et là, il semble que Bérou ait réussi à faire bouger ça et que finalement son personnage, pour le coup, commence à prendre consistance. Alors, je ne sais pas du tout, encore une fois, combien de temps ça va tenir, mais force est de constater qu'il a déjà quand même franchi un certain nombre d'étapes où il n'aurait pas, qu'il n'aurait même pas pu franchir dans une situation politique différente ou comme par le passé. Là, il a quand même été, il a poussé le bouchon assez loin, là. Donc, ce bouchon va-t-il continuer à faire son bonhomme de chemin? Franchement, je n'en sais rien, mais en tout cas, là, il y a dans cette émergence un signe intéressant, je trouve, peut-être de tentative, justement, social-démocrate à la française, qui reste quand même quelque chose d'assez improbable et qui mérite réflexion.
Alors, il y a un autre trait de cette élection, vous le mentionnez dans votre éditorial, c'est la question des intellectuels. Tout le monde a son intellectuel, même Le Pen a son intellectuel, Soral. Les intellectuels ne sont plus de gauche.
Alors, il est vrai que cette expression qui allait de soi intellectuel de gauche, on disait intellectuel, ça voulait dire intellectuel de gauche. On n'imaginait pas une autre version. Les quelques outings, si vous me permettez cette expression, mon cher Christophe, notamment celui de Glucksmann, déclarant haut et fort son choix de Sarkozy, symbolise quand même quelque chose qui mine de rien, est assez important. C'est-à-dire que, tout simplement, eh bien, l'intellectuel de gauche n'est plus quelque chose qui va de soi. On peut être un intellectuel de droite. Ce qui définissait l'intellectuel de gauche, c'est-à-dire l'antifascisme, n'est plus la propriété de la gauche. Ça, on le sait depuis longtemps, depuis en réalité une question que Glucksmann connaît bien, qui est justement cette question qu'a posée Solzhenitsyn, toute la question du totalitarisme et du phénomène soviétique, mais qui a évidemment énormément fait bouger les choses. Mais là, on en a une traduction presque 30 ans après les premiers débats sur ces affaires. On a une traduction politique pour la première fois officielle, enfin, et j'allais dire. Il n'est plus maintenant impensable dans un dîner en ville, je suis sûr que vous l'avez constaté, comme moi, il n'est plus impensable dans un dîner en ville d'exprimer des choix politiques qui étaient jusque-là considérés comme absolument impensables, enfin, fascistes, réactionnaires. De là à dire que tous les intellectuels passent à droite, non, ce serait idiot de le dire. Mais il y a incontestablement une redistribution du jeu là.
C'est parce que là encore, peut-être nous changeons d'époque. Alors, Michel, vous avez un point commun avec Jacques Chirac, c'est l'Asie, je vous cite dans votre journal littéraire. Et pourtant, je ne puis nier que cette Asie m'attire si fortement que j'ai encore chargé, il y a à peine une semaine, mon ami le libraire Étienne Veil, de me procurer à tout prix une édition des Danses et légendes de la Chine ancienne. Donc, c'est une excellente transition vers ce sujet principal, hein. La Revue des Deux Mondes est consacrée à l'Inde et à la Chine, que l'on a tendance à associer. Et pourtant, hein, le dossier s'ouvre par une comparaison des deux, une comparaison économique, et ce sont deux pays qui sont malgré tout très, très différents.
Oui, tout à fait. Ce dossier, d'ailleurs, n'a pas vocation à faire le tour de la question, comme vous vous en doutez. Il était d'ailleurs prévu qu'il soit plus important. Et puis, les circonstances ont modifié un certain nombre de choses. Mais reste que l'Inde et la Chine sont deux ensembles, deux colosses qui, aujourd'hui, naturellement, sont dans le paysage mondial comme jamais ils ne l'ont été. Et l'erreur serait, comme vous le soulignez, l'erreur serait de les comprendre un peu dans le même sac asiatique, comme si nous étions, nous, Européens, dans une sorte de face-à-face un peu opaque, où on ne fait pas trop la distinction entre Shanghai, ce qui se passe à Shanghai et ce qui se passe à Bombay. Ce qui se passe à Shanghai est très différent de ce qui se passe à Bombay. Et ce face-à-face un peu fantasmé, enfin, qui est un peu générateur d'anxiété, d'angoisse, de peur, de panique, eh bien, on peut voir justement à la lecture, notamment de l'article de Jean-Pierre Dubois, mais aussi celui de Gilbert Étienne, que il y a un usage possible, il y a une relation possible de travail. Encore faut-il, en effet, se donner la peine de faire le, j'allais dire, de faire le voyage. C'est surtout ça, en fait, le problème. C'est que la peur que nous avons de ces colosses vient du fait que nous ne les fréquentons pas, vient du fait que nous les voyons de loin, qu'il n'y a toujours pas assez encore, en tout cas en France, un désir d'y aller voir, un désir de voyage, chose que les Anglais pratiquent depuis fort longtemps. On s'étonne toujours, on s'ébahit toujours de la santé du business anglais, mais à Hong Kong par exemple, enfin, ceci est aussi lié à une curiosité voyageuse qui vient de loin et une capacité, une espèce de, j'allais dire, presque de plaisir qu'ont les Anglo-Saxons de connaître le monde. Les Français ne sont pas dans ce rapport-là. Les Français pensent qu'ils sont, eux, le monde, qu'ils sont le centre du monde et que le monde extérieur, le monde qui les entoure, doit venir à eux. Alors, naturellement, il ne faut pas s'étonner que les années passant, les eaux coulant sous les ponts, les choses changent, s'inversent et que ce qui nous paraissait être le centre du monde, eh bien, ne l'est plus. Et il faut donc pas s'étonner dans ces conditions-là de cette montée d'angoisse. Mais l'intérêt de ces articles, justement, est de montrer qu'on peut très bien surmonter, non seulement surmonter, mais traverser cette peur, et qu'il est tout à fait possible d'établir des ponts de commerce, enfin, de travail en commun, même si c'est difficile. Et qu'est-ce que c'est qu'un commerce qui n'est pas difficile? Enfin, reparcourons les siècles et voyons à quel point tout cela a toujours été traversé de tensions. Mais par-dessus tout, je crois qu'il y a surtout cette importance, à mes yeux, capitale du plaisir qu'il peut y avoir à voyager, à rencontrer les sociétés, à les connaître, à travailler avec elle, à vivre avec elle. Voilà.
Alors je reviendrai sur ce plaisir dont vous parlez. Je cite Jean-Pierre Dubois, les années 60 furent la décennie du décollage économique du Japon, la période des années 70-80, celle des dragons du sud-est asiatique. Les années 90-2000 sont avant tout celles de deux grandes puissances, la Chine et l'Inde. Si d'autres pays émergents comme le Brésil, l'Afrique du Sud ou certains pays de l'Europe de l'Est s'ajoutent à ces deux géants, ils restent loin derrière eux en termes de potentiel. Donc vous posez en fait ces deux pays, Chine et Inde, et pourtant dans notre, j'allais dire, dans notre inconscient européen, on a tendance à voir plutôt la Chine par rapport au Japon. Et c'est un point qui est abordé dans un des articles. D'un côté, le nationalisme japonais, le nationalisme chinois face au nationalisme japonais.
Oui, là, il y a aussi là des points de réflexion qui sont pas faciles à démêler, et notamment justement cette question du nationalisme que vous soulevez là à propos du Japon notamment. Comment ce phénomène de crispation nationale ou d'affirmation nationale peut-il s'accommoder d'une mondialisation galopante où, au fond, les critères nationaux sont étonnamment battus en brèche. Alors là, il y a des paradoxes intéressants à creuser. On est encore loin d'avoir fait, d'ailleurs, comme il faudrait, on y reviendra, notamment sur le Japon, on y reviendra.
Des articles donc passionnants auxquels je renvoie nos auditeurs. Il y a un autre article qui est très intéressant, un article de Séverine Arsène, Internet changera-t-il la Chine? Alors, Internet, dans cet article, est considéré comme un révélateur social plus qu'un instrument politique. C'est un peu, on parle beaucoup de la civilisation en ce moment, les journaux titrent beaucoup sur le moi-je. Eh bien, on a l'impression qu'Internet, c'est ça, c'est le moi-je chinois et non pas le nous pour fonder une société, j'allais dire, qui sortirait du carcan communiste.
Oui, alors là c'est pareil, on est là devant un inconnu qui d'ailleurs est ce 21e siècle dans lequel voilà, on est entré. Concernant la Chine, c'est assez fascinant parce que la notion d'identité, la notion de je, le je dans la conception chinoise, dans la sensibilité chinoise, n'a pas du tout le même sens que le je qui nous sert de porte-nom ici dans notre tradition. Chrétienne, cartésienne, où l'individu a une véritable existence. En Chine, il n'y a pas cette conception. Donc, c'est très intéressant de voir là ce croisement, comme les eaux de deux fleuves qui se rencontreraient entre d'un côté, pour dire très très vite, le vide chinois qui ne croit pas à la réalité, mais qui la traverse. Et la multiplication du moi-je, en effet, par les blogs, par ça, comment tout cela
Le divertissement, hein, je cite, efficacité de la censure, désintérêt de la population ou manque de maturité des citoyens. Le web chinois ne joue pas le rôle politique qu'espéraient les observateurs occidentaux. Dans les cybercafés, la majorité des écrans est vouée au divertissement.
Oui, là, on est effectivement devant quelque chose d'assez, comment dire, on ne peut pas aller contre un tsunami, quoi. On peut s'en éloigner, mais on ne peut pas aller contre. Et là, ce déferlement par le biais de l'Internet, ce déferlement du jeu, du divertissement, du ludique, est à quelque chose d'irrésistible. Enfin, alors, je ne sais pas du tout. Comment cela va-t-il évoluer? Ça va sûrement susciter des chocs en retour, des effets pervers, des besoins au contraire de s'arracher. Je ne sais pas. Mais le fait est que ceci nous renvoie aussi, c'est un autre dossier, une autre question, mais nous renvoie aussi, bien sûr, à ce qu'il en est de la lecture, de la solitude, de l'acte solitaire de lire face à tout ce déferlement. Mais c'est une autre affaire.
Alors justement, vous me permettez de rebondir sur votre journal littéraire. Hein, vous racontez ce mercredi que vous avez rencontré des étudiants
Ah oui.
à Nevers.
Des lycéens, des lycéens.
Voilà, des lycéens émus au fond par ces quelques heures
Oui.
passées dans un autre monde. Voilà des profs, comme l'on dit, qui se battent courageusement, au moins sur deux fronts, à la fois contre l'inculture zapping et contre le pédagogisme néostructural. Et voilà des élèves qui ne m'ont pas semblé si perdus pour la cause.
Oui, effectivement, c'est ce qui m'a à la fois ému, réconforté, inquiété. J'ai tout ça en même temps, tout ça mélangé. Sentiment que même s'il y a cette poussée irrésistible du ludique, eh bien ces lycéens que j'ai vus restaient quand même réceptifs à un autre discours et étaient volontiers partants pour autre chose. Encore faut-il leur proposer. Et c'est là où j'ai quand même une certaine admiration pour ces profs. Qu'on critique souvent, à juste titre d'ailleurs, mais souvent à juste titre, mais le fait est que là, j'ai quand même mesuré ce que peut être aujourd'hui la réalité au quotidien d'un prof qui croit malgré tout encore à la transmission littéraire, qui croit que ça vaut le coup de se battre pour convaincre des élèves de lire. Eh bien là, je dis chapeau.
Ce fut une bonne journée, donc.
Ce fut une très bonne journée, mon
D'autant
cher
plus
Christophe.
bonne que je crois que c'était ce jour-là que nous avons enregistré l'émission de présentation de la Revue des Deux Mondes du mois de février. Alors,
Exactement.
il y a beaucoup d'autres articles auxquels je renvoie nos auditeurs, notamment l'article de Marc Fumaroli, donc de l'Institut La Conscience de Venise, Giambattista Tiepolo. Je voudrais terminer cette émission sur l'article de Bernard de Montferrand, qui consacre un article vraiment de fond sur ce qu'il appelle le redressement de la politique étrangère. étrangère. Et il aborde absolument tous les aspects liés à ce que doit être la politique étrangère d'un pays.
Oui, alors,
l'aspect institutionnel, structurel.
Oui, c'est évidemment difficile de résumer cet article, car en effet, il couvre tous les domaines. Je dirais simplement qu'au fond, pour Bernard de Montferrand, cette question de la politique étrangère n'est pas simplement une des fonctions naturellement dévolues à un ministère très important dans un gouvernement, mais au fond, c'est un révélateur, c'est un lieu où peut s'affirmer la hauteur de vue et la force, la puissance d'un pays. C'est là où on vérifie, au fond, ce qu'un pays a à dire, ce qu'il a dans le ventre, parce qu'il est obligé à la confrontation avec la réalité mondiale. Et donc, ce texte, je crois, ne concerne pas simplement, j'allais dire, les élèves qui se destinent au métier de diplomate, mais je pense qu'il concerne absolument tout le monde. C'est-à-dire que la politique étrangère, c'est une manière d'être pour un pays. C'est un révélateur, c'est une attitude de fond, et de ce point de vue, sans entrer là dans les détails, parce que ça nous emmènerait trop loin, mais je pense que la finalité profonde de ce texte, elle est là. C'est considérer la politique étrangère au fond comme une modalité d'existence d'un pays. La France peut exister par sa politique étrangère, elle peut se montrer, affirmer, tenir une parole et jouer un rôle effectif, et pas simplement dans le blabla, mais jouer un rôle effectif sur la scène internationale. C'est là où on vérifie les choses, c'est là où on peut pas se contenter de baratiner, quoi, parce que le baratin ne mène à rien.
Un article de fond auquel donc nous renvoyons nos auditeurs, Bernard de Montferrand, qui est diplomate, le redressement par la politique étrangère. Merci beaucoup, Michel.
Merci, mon cher Christophe.
Et donc, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de la Revue des Deux Mondes. Restez à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt.